Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler.
Ah, c'est pas faux.
Non ! Non !
Oh, pinaise, oui !
Pas ça ! Non !
Dites mon nom.
Non !
Internet et leur demander de me
faxer
les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
Merci. Écoutez, je dirai pas loin comme ça si c'est l'apocalypse ce soir. Bip bip.
Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur ce bon vieux petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on s'intéresse au MCU, le Marvel Cinematic Universe. Parce que Marvel, ce n'est pas seulement des blockbusters à gros budget, c'est aussi un bon paquet de séries qui s'inscrivent dans les différentes phases développées par la Maison des Idées. La semaine dernière, on faisait le bilan de Falcon et le Soldat de l'Hiver, Falcon and the Winter Soldier, qui vient tout juste de s'achever. Aujourd'hui, on remonte un peu plus tôt dans l'année pour parler de la toute première série de Marvel Studios diffusée sur Disney+, WandaVision. À mes côtés, pour vous livrer tous les secrets de cette mini-série, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane.
Salut Clémence.
Et Julien Dupuis. Salut Julien.
Salut Clémence.
WandaVision, ce n'est pas n'importe quelle série Marvel, je viens de le dire, c'est la toute première série de Marvel Studios et la toute première série Marvel diffusée sur Disney+. Un enjeu important, mais c'est aussi la toute première production de la phase 4. Petite parenthèse, si vous n'êtes pas familier avec le fonctionnement de Marvel, l'univers cinématographique Marvel est découpé en différentes phases. La toute première a été lancée avec Iron Man en 2008 et s'est terminée avec la sortie d'Avengers en 2012. Dans chaque phase, plusieurs héros et héroïnes sont introduits, chacun ayant son propre film, et puis certains des films, les différents Avengers, sont centrés sur un arc narratif plus global. Les trois premières phases forment un arc narratif connu sous le nom de The Infinity Saga, qui se referme donc en 2019, et c'est à WandaVision qu'incombe la lourde tâche de redémarrer la machine début 2021 avec le lancement de la phase 4, mais aussi le lancement d'un nouvel arc narratif global. Comme son nom l'indique, WandaVision est centré sur Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, incarnée par Elizabeth Olsen, et Vision, un synthézoïde, un être robotique de synthèse créé par Ultron pour l'aider à vaincre les Avengers et qui finit par se libérer de son contrôle et par rejoindre leur camp. À l'écran, il est joué par Paul Bettany. Dans WandaVision, on retrouve donc Wanda et Vision, dans ce qui s'apparente au départ à une sitcom. Les deux super-héros vivent dans une banlieue idéalisée, mais cet univers tout lisse, tout propre, plein de rires enregistrés va rapidement se fissurer. La série est officiellement confirmée en avril 2019. La diffusion de ses 9 épisodes a débuté le 15 janvier 2021 et s'est achevée le 5 mars. Après moins de 4 semaines de diffusion, elle devient la série la plus regardée dans le monde. Bon, elle a depuis été détrônée par Falcon and the Winter Soldier, on en parlait dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, on avait terminé avec le générique de fin de la série. Il n'y avait pas énormément de choses à en dire. Là, c'est tout l'inverse, au point qu'on va en faire un fil rouge pendant cette émission. Pour le premier épisode de WandaVision, ça donnait ça. WandaVision. Alors, ce générique du tout premier épisode, il évoque toute une esthétique.
Une narration. Moi, j'adore la promesse de WandaVision. J'adore le concept en fait de base, qui est en gros de traiter du deuil, donc de quelque chose d'extrêmement grave et de lourd, par le biais d'une espèce d'idéal comme ça et de à la fois sociologique, idéologique et aussi artistique, qui sont ces sitcoms américains qui ont fleuri notamment dans les années 50, qu'on ne connaît pas forcément. Peut-être que ce qu'on connaît le plus en France, c'est Ma sorcière bien-aimée, mais ça va bien au-delà. C'est We Love Lucy, par exemple, là-bas.
I Love Lucy, pardon.
Oui, qui sont des véritables institutions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était du feel-good total. C'est-à-dire que c'était vraiment là, c'était très léger. Ça n'abordait jamais de trucs graves ou pesants ou quoi que ce soit. Et c'était aussi des espèces de dodes à une façon de vivre américaine et notamment à la vie en banlieue. C'est-à-dire, la vie en banlieue, c'est la classe moyenne américaine, c'est le consumérisme porté à son pinacle, c'est une espèce de suffisance, en fait, dans ce qui se passe là-dedans, quoi. Et l'idée, en fait, de WandaVision, c'est, en fait, de se réapproprier ça et de le revisiter, d'avoir un regard complètement méta, en fait, là-dessus, pour le déstructurer de l'intérieur. Et ça, moi, j'adore, en fait, cette idée-là. J'adore l'idée, en fait, de traiter à la fois, donc, de cette notion de deuil, mais aussi de la condition de paria. C'est-à-dire que la banlieue américaine dans les années 80 va devenir non plus, en fait, enfin ça va continuer un peu, on en reparlera d'ailleurs, ils y feront référence dans WandaVision, mais ce pan, en fait, de cette vision de la banlieue américaine va perdurer, évidemment, mais ça va commencer à être déstructuré, notamment avec des films comme déjà les premiers Spielberg, hein, c'est la Rencontre du troisième type ou E.T., et puis après par certains films, en fait, de Tim Burton, et notamment Edouard aux mains d'argent, mais aussi Frankenweenie, je parle de son court métrage, hein, pas du vilain film d'animation qui a été fait ensuite. Et WandaVision, en fait, aurait pu procéder de ça, et en tout cas, c'est la promesse qu'il y a au début, et je trouve qu'elle est plutôt tenue sur les premiers épisodes, parce que les premiers épisodes, déjà, ils font quelque chose que tu vois rarement dans les séries télévisées, c'est qu'ils adaptent le format, les formats, j'ai envie de dire, à ces séries-là. Quand je dis format, c'est que c'est en noir et blanc. Il faut déjà oser, en fait, proposer ça. C'est pas du 16/9 aussi. Il faut avoir aussi le courage de faire ça. Et c'est aussi des formats de durée qui sont peu ou prou indexés, en fait, sur ce qu'on te proposait à l'époque. C'est des épisodes qui durent une petite vingtaine de minutes dans ces eaux-là. Et qui, au niveau de l'écriture, tente aussi de suivre ce qui se passait, en fait, là-dedans. C'est-à-dire qu'il tente aussi de suivre quelles pouvaient être les problématiques qu'on avait à cette époque-là, à quel degré, en fait, d'enjeux scénaristiques tu pouvais te porter. Et à l'intérieur de tout ça, ils essaient de construire quelque chose avec, finalement, c'est pas du tout des espèces de représentants du couple idéal, puisque c'est, comme tu l'as dit, c'est basiquement un robot et une sorcière, quoi, qui, de façon... comme ça subrepticement, en fait, te montre, en fait, ce qu'ils sont réellement. Et c'est vrai que du coup t'as déjà une tension, une espèce d'étrangeté qui s'instaure, en fait, dans ce contexte extrêmement banal, quand tu vois notamment Paul Bettany qui a son maquillage prosthétique, en fait, qui porte son maquillage prosthétique. Ça, moi, j'aime bien. Déjà, il y a quelque chose qui est en train de se passer là, et puis aussi parce que tu sens qu'évidemment tout ça n'est pas ce que c'est censé être, et donc t'as des petites pointes comme ça d'étrangeté qui auraient pu, en tout cas dans un monde idéal, en tout cas moi tel que je l'ai fantasmé après avoir vu les premiers épisodes de WandaVision, parce que je suis très crédule et je crois toujours à ce qu'on me pose, et je pose les plus beaux espoirs en tout, même quand c'est les productions Marvel et que j'ai été déjà multiples fois déçu. Je me suis dit, il pourrait presque y avoir un peu un truc de Lynch, en fait. C'est-à-dire que dans Twin Peaks, il y avait aussi un petit peu de ça. C'est-à-dire cette façon aussi de revisiter la communauté américaine idéale, l'ambiance de petites villes et de ces espèces de non-lieux aussi, hein. C'est ça aussi, hein, qui caractérise ces endroits-là. C'est à ces endroits où c'est difficile de se repérer dans l'espace, dans le temps et tout.
Et où il ne se passe rien, en fait.
Il ne se passe rien, effectivement, quoi. Il n'y a pas d'histoire. C'est des trucs, il n'y a pas d'histoire. Et essayer de les casser, de les briser comme ça. C'est ce qu'ils vont faire dans WandaVision, sauf que, mais on va en reparler plus tard, malheureusement, la série va être attrapée par tous les fantômes, en fait, non pas de Wanda et de Vision, même si c'est un peu le principe, mais aussi de Marvel, mais on y reviendra plus tard.
Ouais, moi, j'ai un peu tempéré ce que dit Julien, parce que justement, je ne me suis pas vraiment laissé porter par cette promesse-là, dans le sens où déjà, effectivement... Je trouve pas ça si courageux de faire ça dans l'absolu sur une plateforme comme Disney+, l'idée que l'aspect méta des séries télé, ça a déjà été fait, hein. T'as cité Twin Peaks, mais il y a plein d'autres exemples. La question que je me posais, c'était toujours, puisqu'on est censé retomber sur nos pattes, puisqu'on est censé raconter quelque chose qui est lié au MCU, comment est-ce qu'ils vont le faire, quoi. Et effectivement, déjà, la logique du deuil, en fait, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que je crois arriver à l'épisode, il y en a 9, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises, voilà, il me semble qu'arriver à l'épisode 7 ou 8,
je n'allais pas jusque là, hein, Stéphane, moi, dans ma perception de la série. Hein.
Mais dans, je vais juste préciser pourquoi je dis ça, c'est que dans le fameux passage obligatoire d'une série télé qui est le précédemment, le Previously, en fait, au début, ils te mettent des scènes de Avengers Infinity War pour te montrer ce qui est vraiment arrivé à Vision et à Wanda. Et du coup, bah, c'est comment dire, c'est assez étonnant parce que ça sous-entend que si tu n'as pas vu Avengers Endgame ou Avengers Infinity War, pardon, bah tu peux pas forcément comprendre quels sont les enjeux de la série. C'est logique, mais c'est étonnant parce que du coup ça te détonne avec la volonté de faire justement une série sur le deuil. C'est-à-dire que en gros, la première problématique, c'est que c'est pas présenté comme une série sur le deuil. C'est quelque chose que tu comprends au fur et à mesure, au bout du troisième ou quatrième épisode, en fait, en gros, et éventuellement si tu as vu les films. Si tu regardes que la série, voilà, ça, moi je pense que narrativement ça fonctionne pas. Donc du coup, t'en es à te poser la question, en me mettant dans la peau d'un spectateur qui n'a pas vu donc les films du MCU, je me dis ok, donc en fait ils veulent aller où avec cette idée que chaque épisode fait bon là c'était I Love Lucy, mais bon je pense que leur démarche c'est alors Wanda c'est une sorcière donc ma sorcière bien aimée.
Voilà, ah, je pense que c'est vraiment effectivement on peut d'ailleurs tout de suite lancer. Le générique du deuxième épisode. Effectivement, on a juste l'audio, mais visuellement, on retrouve vraiment toute la patte graphique du générique de Ma Sorcière Bien-Aimée.
Oui, je pense qu'ils ont essayé de connecter ça avec le simple fait que c'est une sorcière, en fait, le personnage de Wanda, et qui va d'ailleurs, je spoil, hein, j'avance, en fait, affronter une autre sorcière. Donc voilà, c'est très...
Qui aura son propre générique.
Voilà, donc c'est très, le méta, en fait, il est à la fois sur les séries, il est à la fois sur Marvel, mais finalement, la problématique de ce méta, en fait, de cette approche, en fait, de critiquer, comme on le sait qu'ils vont retomber sur la patte, c'est qu'ils expliquent littéralement tout, c'est-à-dire que en fait, tout doit être justifié. Pourquoi, en fait, on part sur les séries télé? Pourquoi? Et en fait, du coup, tu te retrouves avec, en face de ça, des personnages de scientifiques qui se mettent à analyser l'esprit de Wanda et du coup, surexpliciter absolument toutes les raisons pour lesquelles on t'a présenté ces choses-là et ne plus du tout laisser de place, finalement, au symbolisme, à la critique, à tout ça, parce que tout est justifié, tout est intradiégétique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... ce que j'appellerais la poésie, en fait, si tu veux, entre les lignes, quoi, que tu peux lire entre les lignes. C'est-à-dire que c'est pour ça que, quelque part, c'est pas seulement, en fait, que la promesse n'est pas tenue, c'est qu'il te la retire. À mon sens, c'est ça le vrai problème de cette série-là. C'est-à-dire que sur le principe, je me dirais oui, pourquoi pas. Les premiers épisodes détonnent un peu par rapport à ce que t'as l'habitude de voir dans le MCU, mais enfin tout ça pour retomber totalement sur un grand combat, tu vois, de c'est-à-dire il y a aussi par exemple il y a cette logique de pour peu que tu t'intéresses un peu à l'envers du décor des séries et ce genre de choses, tu sais qu'elles sont toutes tournées à Los Angeles. Elles sont toutes tournées dans les studios à Burbank, quoi, qui est déjà en soi une banlieue qui ne ressemble pas à ces banlieues-là.
C'est en Georgie, là.
Ouais, mais voilà. Et en gros, si tu veux, oui, mais il rejoue avec ça, quoi. Et en fait, le truc, c'est que le seul truc un peu marrant, c'est que le combat se déroule là-bas. Donc, ils ne peuvent pas défoncer 15 immeubles, tu vois. Il y a que des petites maisons. Mais même là, en fait, l'idée que c'est censé ressembler à une vraie... parce que c'est ça en fait qui était expliqué à la fin, une vraie ville des États-Unis, tu te dis mais non, enfin c'est les villes des États-Unis ne ressemblent pas à ça. En fait, elles ne ressemblent pas à les petites villes de banlieue des États-Unis. Elles ressemblent, enfin les villes de banlieue des États-Unis, elles se ressemblent. Ah non, c'est enfin moi celles que j'ai visitées, elles sont crades, elles sont enfin le vernis est complètement pété. Ça ressemble pas à une ville de série télé quoi. Ah bon, c'est mon expérience. Hein.
Je te vois.
Le problème, c'est qu'on est parti sur deux temporalités différentes avec Stéphane. Moi, je parlais vraiment des premiers épisodes, et c'est vrai que très rapidement, en fait, l'univers Marvel met son emprise en fait sur tout ce qui se passe en fait dans la série. Et il y a deux choses en fait qui se passent, c'est que déjà, tu n'es plus à l'intérieur en fait de ces sitcoms. Alors là, pour moi, c'est un énorme problème. C'est-à-dire que l'intérêt, en fait, de la série, telle que je la voyais au début, telle qu'elle me l'était présentée, c'était de justement vivre le drame de ce qui se passe du côté du couple de Wanda et de Vision à l'intérieur de ce principe-là narratif qui est on revisite le sitcom familial humoristique à travers les âges. Et à travers tout ça, tu comprends entre les lignes, etc., ce qui se passe. Sauf que très vite, ils sortent, en fait, de tout ça. Il se barre de tout ça, et notamment avec une personne qui revient après le, alors je sais plus comment ça s'appelle, le snap là de Thanos,
le snap,
en fait.
Le blip,
voilà, le blip,
l'éclipse,
ouais, l'éclipse, c'est ça, et elle revient en fait, un personnage qui revient, c'est marrant, hein, et elle est reconstituée comme si l'univers Marvel reprenait ses droits à ce moment-là, était soudainement ressuscité, et ça casse complètement le trip. Après, tu vas avoir des allers-retours là-dedans, t'as à nouveau le retour de cette espèce d'humour décalé qui désamorce tout ce qui peut être un tant soit peu dramatique et tout, et qui casse complètement ce qu'on t'avait vendu au départ, qui était, tu vas suivre cette évolution-là par l'intermédiaire d'une espèce de version idéalisée de tout ce que t'as pu voir, t'as pu rêver de la vie familiale américaine à travers sa fiction. Et c'est là aussi où je trouve que c'est pas très valide ce que dit Steph sur le rapport par rapport à la ville, à la vraie ville. C'est que non, c'est pas censé être une vraie ville, excepté
la narration, c'est censé être une vraie ville.
Qu'elle a complètement transformée, sauf effectivement un tout petit peu à la fin où là ils essayent un tout petit peu de la salir, etc. Mais bon, ça, on en a déjà parlé sur Soldat d'hiver, c'est toujours la même problématique, c'est que quand ils essayent d'incarner, de rendre un tout petit peu plus physique, réel, tangible, un univers, ils échouent à chaque fois parce que tu peux pas trop incarner, parce que là, si tu incarnes trop, tu vis trop, et si tu vis trop, bah, tu risques justement de quitter le côté un peu trop policé qu'ils recherchent, moi, à mon sens, en fait, dans toutes ces productions, que ce soit série ou film, quoi. Voilà.
Cette série, elle a un côté hors du temps d'une certaine manière. C'est ce qu'on disait au départ. Elle arrive à un moment clé dans tout le système de phases de Marvel. Elle débute non seulement la phase 4, mais aussi tout un arc narratif global, puisque tout ce qu'il y a autour de Thanos, autour des pierres d'Infinity, etc., c'est fini. Mmh. Ça, c'est un chapitre qui est bouclé. Donc, cette série, elle s'apparente un peu à une espèce d'espace de transition, à la fois hors du temps, en traversant ces différentes époques, mais c'est aussi l'occasion d'introduire des nouveaux personnages qui vont prendre de l'importance. Parce que dans cette série, on voit l'apparition de la sorcière Agatha Harkness, on voit évidemment l'apparition de Monica Rambeau, qui va devenir plus tard Captain Marvel, Pulsar, Photon, Spectrum. Et puis, c'est aussi la première fois que le personnage de Wanda se fait appeler et désigner comme la sorcière rouge, oui. La Scarlet Witch. Donc, c'est des éléments de transition qui amorcent finalement. Oui, mais cette nouvelle phase.
Bien sûr, mais la question, c'est comment comment tu l'incarnes, comment tu le fixes en fait dans un univers. C'est-à-dire que il y a un autre truc que moi, une promesse que je trouvais intéressante là-dedans, qui était, on a parlé de la banlieue comme d'un lieu qui est flottant en fait, qui n'a pas d'histoire et tout. Et là, justement, ils ont créé une histoire. Il y a tout à coup, tu te rends compte qu'il y a un soubassement. Il y a comme des catacombes ou des douves, on va dire, plutôt à l'intérieur, sous ces maisons-là idéales. Et moi, je trouve que c'est intéressant. De la même façon que elle apporte toute l'histoire et les traumas qu'elle a pu vivre dans sa petite enfance et tout là-dedans. Je trouve ça intéressant en fait d'incarner, d'habiller en fait tout ça. Il y avait une belle promesse là-dedans qui n'est pas du tout tenue. Et effectivement, là, par contre, je suis complètement d'accord avec Steph, c'est que il y a l'avant-dernier épisode qui est un épisode extrêmement explicatif où en gros on te dit, je crois même qu'il s'intitule comme ça, non c'est si vous avez loupé le début ou quelque chose comme ça, on peut pas être plus littéral que ça, et effectivement c'est un épisode qui est extrêmement littéral où en gros on t'explique en te mettant le, vraiment en te pointant du doigt tout ce que tu dois comprendre et tout, et effectivement ça retire toute en fait l'interprétation. Quand tu demandes au spectateur d'interpréter, tu lui demandes de s'impliquer en fait dans le truc. C'est ça en fait qui est intéressant, de ne pas remplir les trous. C'est que du coup, il doit faire travailler ses méninges, du coup, il doit se mettre, il doit avoir encore plus d'empathie en fait pour le personnage, se mettre à sa place pour essayer de comprendre ce qui se passe là-dedans. Et quand tu expliques tout, quand tu surlignes tout, ça te met à distance. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, comme l'a dit Stéphane, ça enlève toute la magie, ça enlève tout le « et si ». Et qu'est-ce qui se passe? Et là-dedans, et je pense que de la magie, t'en as besoin dans une série comme celle-ci. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la science-fiction, là. On est vraiment dans du fantastique, dans de la sorcellerie et tout. Donc, la question, elle a son importance. La question à laquelle tu ne peux pas répondre, elle a son importance, je pense, dans la constitution, en fait, d'une ambiance là-dedans. Mais je pense aussi que le fait de répondre à toutes les questions dans cet avant-dernier épisode, pour moi, me pose souci aussi là-dessus. C'est-à-dire que d'un coup, je me dis, donc, c'est son histoire. Ça peut pas être la mienne. On m'a pas laissé le temps de m'approprier en fait, d'être à la place en fait d'elle, et ça détruit en fait finalement le truc, et tu peux avoir une mini parce que tu parles toi de fondation en fait d'un nouvel univers. Pour moi c'est plus l'enterrement en fait de vraiment ce qui s'est passé auparavant, plus ça, hein.
Et oui, enfin, ça fait maintenant trois ans qu'ils essayent d'enterrer tout ça et ils le font pas vraiment. Tu disais c'est une série hors du temps.
Je pense que la vision, ça va être difficile de la faire revenir.
Bah si, puisque justement ils ont créé un double qu'il a conscientisé, donc tu vois, justement ils vont se tourner là-dessus. C'est ça le problème en fait, c'est-à-dire que en gros tu parlais de série hors du temps, mais pour moi c'est pas vraiment une série hors du temps parce que justement elle est très clairement temporalisée, c'est-à-dire que ça se passe après l'éclipse. Il y a ce perso, alors tu te rappelles, c'était la fille de ce perso qui était dans Captain Marvel dans les années 90, donc bah là tu sais qu'elle est morte. Enfin, tu as tout un tas de trucs en fait, tout est posé, c'est-à-dire que tout est clairement dit et allons-y, avançons. Et si ce n'est que bah en fait voilà, comme on disait, il y a le sirop supplémentaire puisque c'est Wanda cette fois, c'est pas un autre personnage. Et donc du coup bah on traite sa problématique, et sa problématique, c'est le deuil. Moi, j'aimerais pointer ça du doigt, justement, en fait, c'est que si tu as un petit peu de recul sur ce que c'est Marvel, pour moi, hein, depuis maintenant 10 ans, et si tu regardes la façon dont c'est perçu sur Internet, la façon dont les gens réagissent à Marvel, et là, je vais pas me faire des amis, mais en fait, c'est une nouvelle religion. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on a beaucoup reproché à George Lucas ça en fait, hein, sur Star Wars, c'est-à-dire que la Force, c'était, enfin que tout Star Wars c'était une nouvelle religion, mais à l'aune de la pop culture actuelle et vu ce qui est devenu Star Wars, on peut clairement dire que c'est Marvel en fait qui est la nouvelle religion de la pop culture, une religion en tout cas pour les fans. Et en gros, qu'est-ce que c'est la religion en fait quand tu réfléchis, c'est en fait une narration qui a été mise en place pour aider l'homme à mourir, à comprendre en fait sa condition périssable et accepter quelque part la mort, quoi. Et là, en l'occurrence, je trouve ça assez ironique que Marvel se pique de traiter un sujet aussi grave que le deuil, aussi lourd de sens en fait, quand par principe, et des réalisateurs de chez Marvel le disent ouvertement, hein, les personnages ne meurent jamais vraiment. Chez Marvel, j'en veux pour preuve l'exemple de Vision, c'est-à-dire que Vision, il est mort, oui, mais en fait, il est doublé, il a une conversation avec lui-même, et en fait, en gros, l'autre, il repart en disant ah bah merde, je suis conscient, et hop, il repart, et en fait, d'un seul coup, il se dit ah c'est bon, on va pouvoir régler le truc. Je comprends hein, que ça se suive, tu vois, par rapport à des comic books, je comprends qu'il y a tous ces trucs là, mais en fait, la narration dans un comic book et la narration au cinéma ou à la télé, c'est pas la même chose, quoi, et du coup, ça annule énormément d'enjeux déjà de savoir finalement que les personnages ne meurent pas. Le problème d'Iron Man par exemple qui est la grande perte entre guillemets, le grand sacrifice en fait de le grand personnage sacrificiel de Marvel sur X films quoi et sur des années et des années, c'est que dès que le personnage est mort, 2 mois après ils te sortent un film comme Spider-Man et c'est la première chose que tu vois et son ombre elle est partout sur le film en fait. Et du coup c'est pas le problème, c'est pas que le personnage meurt en soi, c'est que même Marvel à force de se reciter et se reciter et se reciter en permanence, font continuer à vivre en fait les personnages d'une manière ou d'une autre. Là, d'après ce que j'ai compris, on ne sait pas exactement la teneur de ce truc, mais il me semble, et lui-même n'était pas au courant, que Robert Downey Jr. est dans Black Widow, qui va sortir donc sur, alors peut-être pas en France, je ne sais pas comment ça va se passer, mais aux États-Unis en tout cas sur Disney Plus au mois de et en salle au mois de juillet. Donc voilà, enfin c'est t'es mort mais t'es pas vraiment mort puisque regarde, t'es encore là. Tu vois, on a encore une scène en plus, on a encore un truc en plus, on a encore un truc à te montrer. Et du coup, pour moi, ça questionne de manière générale le succès phénoménal en fait de cette entreprise, quoi. Et l'idée que, en gros, des gens, parce que c'est des gens qui ont notre âge, hein, y a des gamins qui regardent ça, mais il y a aussi les gens qui ont notre âge en fait, qui sont très nostalgiques de des comic books qui regardaient, qui lisaient, etc., etc. Et qui en fait ont ce besoin d'avoir en permanence la tête dans le guidon de ce que ça raconte, c'est-à-dire vraiment en fait ne pas pouvoir sortir. Et en fait, on est dans Marvel, on est dans Marvel, on est dans Marvel. Donc
ouais, mais tout à fait. Je vais pas t'interrompre, Steph, mais en fait, de la même façon qu'on parlait dans Le Soldat de l'hiver dans l'épisode précédent, en fait, de ce truc où au bout d'un moment, il y a une contradiction fondamentale entre ce que la série veut faire et ce qu'elle te propose au final. Et cette contradiction, elle est due à la tension entre ces grandes ambitions qui sont tout à fait louables et qui sont relativement audacieuses, qu'il s'agisse du Faucon et du Soldat de l'Hiver ou de WandaVision, hein, c'est tout à fait louable. Et comme je l'ai dit en ouverture de ce podcast-là, moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup la proposition de base de WandaVision. Mais c'est vrai que à chaque fois, je me dis, mais attends, vu l'historique, en fait, et vu le mode de fonctionnement du studio, et notamment ce rapport à la mort dont vient de parler Stéphane, je dis, mais comment ils vont s'en sortir, en fait? Et en fait, la réponse, c'est qu'ils s'en sortent pas. C'est qu'ils s'en sortent pas, c'est qu'il y a un renoncement par rapport à ce qu'ils doivent raconter à la base. Et moi, alors, Steph en a très bien parlé sur la mort, mais de la même façon que donc il y a cette problématique sur la mort, il y a cette problématique sur apporter de la substance en fait à ce décorum, ce qui est important, ce qui est aussi l'enjeu en fait de cette série-là, et ce qui va permettre d'asseoir aussi l'existence en fait de la sorcière rouge, en tout cas sa naissance. Et là, c'est complètement ironique, c'est-à-dire que du coup, je trouve que dans les derniers épisodes, et notamment le dernier épisode qui est donc ce grand combat final, c'est l'inverse de ce que ça devrait être. C'est-à-dire que là, tu devrais être à la fin d'Edouard de Main d'Argent quand ça dézingue, en fait, totalement l'ambiance et ce qui doit se passer, notamment dans la banlieue américaine, où tu sens qu'il y a un basculement, en fait, qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, qui va marquer ce lieu, qui va faire que ce lieu existe, qu'il s'y est passé quelque chose, qu'il a une histoire, qu'il a de la substance. Là, c'est l'inverse, parce qu'en fait, du coup, tu te retrouves, ça recoupe, en fait, ce que je disais sur les vieux fantômes, en fait, de Marvel qui regagnent et qui recontaminent, en fait, cette série. Tu te retrouves sur des sentiers ultra balisés, c'est-à-dire que ces scènes d'action, ces conflits, cette façon de créer une direction artistique des décors, d'utiliser les effets spéciaux, de découper l'action et tout, tu te retrouves dans les sentiers balisés, mais que tu as vu dans tous les films en fait précédents. Et du coup, comment te dire, le truc en fait qui te semble bizarre et étonnant, c'est le début et c'est plus la fin. Or, ça devrait être l'inverse si tu voulais créer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Si tu voulais marquer quelque chose, si tu voulais que cette œuvre, elle compte, qu'elle ait un sens à la base. Et je pense qu'il y a c'est un vrai gros souci, de la même façon qu'ils ont... en fait, cette volonté de conforter le spectateur à chaque fois ce terme horrible, de lui en donner pour son argent, tu vois? Je trouve qu'il y a un truc comme ça qui est horrible, en fait. C'est que je pense que pour te marquer, il faut un peu bousculer, il faut un peu te proposer quelque chose que tu n'as pas vu, que tu n'as pas mangé, que tu n'as pas bu avant.
Et il y a toujours,
et ça, ils n'osent pas le faire.
Il y a toujours cette notion de attention, t'inquiète pas, c'est un peu bizarre hein, là, mais t'inquiète, on va tout t'expliquer. On va tout t'expliquer, tu vas voir, ça a un sens. Et le problème, en fait, c'est que ce sens-là, il n'est pas incarné, c'est-à-dire que c'est juste en fait une explication de texte. Et en gros, c'est ça le problème, en fait, c'est que du coup, tu traites pas vraiment le deuil, c'est-à-dire que oui, ça parle de ça. Oui, en fait, dans les faits, ça parle de ça. Je vais reprendre l'analogie du Starbucks que faisait Julien, en fait, sur l'épisode précédent. Mais en fait, donc écoutez, c'est une très bonne analogie, je trouve. Mais
merci Stéphane.
C'est une analogie où quand t'as goûté le goût fraise du café, tu reviens pas, tu fais ah Ok, et puis tu reviens jamais dessus. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça, c'est ça aussi le truc, c'est que tu reviens au café de base. Et il se trouve que, bon, pour aller encore plus loin, le café aux États-Unis, c'est compliqué. Donc le truc, c'est que bah voilà, Starbucks, ça passe pour de la grande, du bon café. Quand tu compares ça à la flotte qui boivent en général, je fais une grande généralité évidemment, mais de sale européen qui n'arrive pas à avoir son café là-bas. Mais le truc, c'est que c'est très vrai parce que il y a cette perception de Marvel, en fait, qui, attention, les mecs prennent des risques, attention, ils font des grands trucs qui est partout, en fait. C'est-à-dire que c'est encore une fois, ça se vérifie pas, moi, je trouve, dans leur production. Mais par contre, quand tu lis tout ce qui se dit autour, enfin, t'as l'impression que les mecs, ils sont en train de révolutionner l'histoire du cinéma, de la série télé, de la narration et tout. Et c'est, t'as envie juste de te dire, mais c'est pas vrai, arrêtez. Enfin, c'est de la com, ça. C'est-à-dire que, et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu te dis, c'est de la com. C'est-à-dire que, en fait, c'est la com qui fait, à mon sens, survivre. Alors après, je comprends qu'il y ait des gens qui, ce que je parlais, les fans, en fait, qui s'investissent depuis maintenant des années dans cet univers-là. Mais moi, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à le faire parce que, en gros, j'ai l'impression qu'on me détricote ce qu'on m'a mis en avant à chaque fois. C'est-à-dire que, voilà, comme on le disait, il y a ce Black Widow qui arrive. Donc, en fait, on va encore voir Tony Stark, qui me semble qu'il va être dans What If aussi. Alors, ça peut se justifier à chaque fois, mais le problème, c'est qu'une fois que le perso est mort, moi, je n'ai plus envie de le voir, Robert Downey Jr.
T'as Docteur Octopus.
Je l'ai déjà assez vu, en fait.
T'as voilà. Docteur Octopus qui arrive dans le prochain Spider-Man, mais c'est toujours joué par Alfred Molina.
Et enfin, c'est exactement ouf. Ce que je citais, le réalisateur du Spider-Man qui arrive, en fait, a ouvertement expliqué à Alfred Molina, il lui a dit, mais mon personnage est mort, comment est-ce qu'il va revenir? Et ben, là, en gros, le personnage lui a dit, mais tu sais, chez Marvel, les personnages sont jamais vraiment morts. Et c'est vrai que c'est problématique chez Marvel, mais c'est un peu général. Hein. C'est Nolan, par exemple, je pense, n'a pas réussi à avoir cette finalité-là sur Dark Knight Rises. Je pense vraiment que l'idée c'était de faire mourir le personnage de Batman. Et bon, ben bah, c'est mi fig mi raisin, comme qui dirait.
Mais bon, mais, après ça, c'est un truc auquel on peut pas trop répondre. Mais c'est vrai que si on reprend le truc de la religion là dont parlait Steph, pour moi c'est un vrai gros problème aussi. C'est-à-dire que ça aide à te construire ces trucs-là, quoi. Moi, je veux dire, Star Wars, ça a contribué à me construire quand j'étais minot, quoi. Alors, ça fait un peu vieux con là de dire ça, mais c'est vrai que c'est, je sais pas, il y a un truc du coup là-dedans, ça aide pas en fait Marvel. J'ai un peu l'impression moi d'être. Alors moi, j'adore les parcs d'attractions et tout, mais c'est vrai qu'il y a un truc pas sain en fait dans le parc d'attractions où tout est lisse, tout va bien, tout est parfait. Et tout à coup, quand tu te retrouves dans ta réalité à toi, putain, le choc à chaque fois, quoi. Quand tu sors de Universal Studios, quand tu sors de Disneyland et tout, à chaque fois, je trouve que le choc, quand tu reviens à ta réalité, que tu reprends ta caisse dans le parking tout pourri, là, le choc, il est rude, hein. C'est dur, moi, c'est dur, quoi. Et c'est un peu comme si, je sais pas comment dire, mais c'est comme si tu, ça doit t'aider à affronter ce qui se passe pour de vrai, en fait, de temps en temps, ces trucs-là, quoi, je pense. Ça doit t'aider, quoi. Et Dark Vador, c'est vraiment le père. Et il lui a coupé vraiment la main, quoi. Et ça aide. Ça t'aide, en fait. C'est ce drame, assumer le drame, assumer ce qui s'est passé, quoi. Tu vois, ça t'aide. Moi, je veux dire, ça t'aide pas quand ils font tuer la moitié des personnages et puis, en fait, ils reviennent. Comme ça, comme des crottes, là, oui, sur puis, un pauvre prétexte. Et puis, dans les Avengers, tu vois.
Et c'est pas
ça
traité.
Pas, ça t'aide
et,
pas.
Et
ça.
Encore une fois, là-dessus, c'est pas traité. Ils en parlent. Par exemple, on parlait du Falcon et le Soldat de l'Hiver la semaine dernière. Oui. Mais par exemple, à quel moment le fait que Sam soit parti pendant 5 ans, ça a une incidence, en fait, sur son fonctionnement? En fait, là, c'est la première fois qu'on voit un personnage qui... Non, je crois que Wanda aussi, elle était plus... Enfin, je sais plus. Bref. Mais en fait, en gros, le personnage de Sam, par exemple, en fait, il disparaît pendant 5 ans. Mm-hmm. Il a perdu 5 ans de sa vie. C'est jamais traité.
Bah, c'est-à-dire, le seul effet que ça, c'est qu'il ne peut pas faire d'emprunt à la banque parce qu'il ne peut pas justifier d'avoir travaillé les 5 dernières années.
Voilà, c'est ça. Mais c'est tout. Et en fait...
C'est d'une absurdité d'avoir... C'est voilà. Difficile. Hein.
Mais tu vois, et donc, en fait, quelque part, pareil, c'est-à-dire que tu ne traites pas ces choses-là. C'est-à-dire que c'est fait, c'est arrivé. On vous le dit. Mais en fait, c'est jamais incarné. Et du coup, c'est ce problème. C'est-à-dire que c'est complètement... C'est-à-dire que moi, je les regarde, hein, la plupart de ces films-là. J'ai quasiment tout vu. Et j'oublie au fur et à mesure où ça avance.
On sait qu'il y a eu la création d'une espèce d'entité mondiale, d'un organisme mondial pour gérer toutes les personnes qui sont réapparues. Et c'est quand même un des propos, hein, dans Winter Soldier. et Falcon. Mais c'est pas creusé non plus.
Non, et puis même, je veux dire, c'est pareil aussi, je pense que dans tout récit, tu dois avoir du sacré. C'est ce que j'entends par le sacré, c'est des trucs auxquels tu touches pas. C'est ça bouge pas, quoi. Et j'ai l'impression aussi que dans cette volonté de ne jamais froisser, de ne jamais déranger vraiment en fait le spectateur, il y a aussi ce truc de rien rendre, de la même façon que tu fais rien mourir vraiment, tu rends rien de véritablement sacré. Et je pense notamment moi au fait que cette disparition, cette éclipse serve de ressort comique en fait dans le deuxième Spider-Man en fait. Et pour moi, ça, c'est un petit souci. C'est-à-dire que normalement, dans cet univers-là, dans ce monde-là, ça doit être un drame. Ça doit être un drame. Si c'est un drame, c'est un drame. Tu rigoles pas avec, quoi. C'est dramatique. C'est important, je pense aussi, dans ces trucs-là. Ce que je veux dire par là, c'est que Marvel, t'as toujours l'impression qu'ils ont peur de tout trop prendre au sérieux. Ou de tout trop prendre à la légère, en ayant peur, en fait, de s'aliéner une partie du public, quoi.
Ou qu'on leur reproche que c'est trop triste ou que c'est trop
aussi, trop machin. Et à force de vouloir chercher à plaire à la majorité, tu te retrouves voilà avec un renoncement assez fascinant comme celui de WandaVision, quoi. Où t'as un très très beau, encore une fois, moi là par contre, je maintiens, t'as un très beau principe en fait de base, t'as plein de promesses et qui au final, et pour moi en tout cas, c'est pas du tout satisfaisant, quoi, vraiment pas.
Vas-y, je t'en prie.
Vas-y.
Non, mais j'allais dire, en fait, l'autre truc, c'est que ça risque pas de s'arranger dans le sens où, voilà, comme, alors, pandémie oblige, il y a des films qui ont été repoussés, mais en vrai, si on fait un calcul, c'est ce que je disais la dernière fois, là, on a, comment dire, on avait 3 films Marvel, en fait, par an, ce qui était déjà beaucoup, moi, je trouve, hein, parce que il faut arriver à la soutenir, la narration, mine de rien, et moi, je trouve qu'ils y arrivent pas, en fait. En tout cas, c'est vraiment, un semblant de fil directif quoi, mais le truc c'est que là on a donc 3 séries minimum.
Ouais.
On a 3 films minimum puisqu'on a Black Widow, on a Shang-Chi en septembre et on a Eternals en novembre normalement si tout est maintenu.
Ouais.
Voilà, oui, mais bon, avec Disney+, c'est maintenu maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils peuvent le diffuser directement. Tout le monde va sur les plateformes de streaming, donc il y a quand même des grandes chances que ça soit maintenu. Et ça veut dire qu'on a 3 films, 3 séries minimum, mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver.
Alors justement, c'est là où je voulais en venir. Et avant ça, on parlait de promesses non tenues. Moi, j'avais dit qu'on ferait un fil rouge avec les génériques.
Désolé, Clémence.
Et finalement, c'était intéressant de vous entendre parler.
Non mais nous on est l'inverse de Marvel, on est imprévisible. On sort des voilà. cadres.
On est imprévisible, on ne respecte pas le conducteur. On va quand même écouter un dernier petit extrait, l'extrait du cinquième épisode parce que j'ai beaucoup d'affection pour la musique de cette époque. Voilà, donc là, on est en plein dans les années 90. Hein. Moi, ça m'évoque Heartbreaker à vif.
Ah, bien sûr. Mais il y a un truc, parce qu'on a beaucoup attaqué et tout, mais ça reste quand même hyper étonnant, la tenue, le cast. Déjà, c'est toujours bien joué. Et il y a une tenue, justement, là, dans la... Moi, je trouve beaucoup plus qu'ailleurs que dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, dans la direction artistique et tout, c'est quand même vachement ambitieux, quoi. La série, elle... voilà, c'est pareil, c'est d'une propreté, d'un nickel. Je voudrais juste tirer un petit coup de chapeau. Il y a une société d'effets spéciaux française qui a contribué aux effets, qui s'appelle The Yard, société de Laurence Herrmann, qui a une excellente boîte. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, Bambuf avait déjà travaillé sur des précédents Marvel et tout, mais faut quand même les saluer.
Cocorico.
Voilà, en gros, c'est mon petit côté un peu chauvin.
Et donc juste avant cet intermède musical, on parlait de la suite, hein, de la façon dont cette série s'inscrit dans la phase 4 du MCU. On a parlé des trois prochains films à venir, et il y en a d'autres, hein, mais donc les trois prochains films qui sont attendus, c'est donc Black Widow en juillet, Shang-Chi en septembre et Eternals en novembre. Il y aura ensuite Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et le prochain Thor Love and Thunder.
Voilà, et là en fait on en arrive aussi à ce point où Marvel en fait commence à bouffer Marvel, c'est-à-dire que l'autre Marvel, c'est-à-dire que en gros il y a ce truc, alors parce que Disney déjà a racheté Fox en fait, donc on sait que il y a une prémisse de ça dans WandaVision. Il y a notamment par exemple le fait de faire revenir le personnage de Quicksilver là, mais pas celui d'Avengers, l'ère d'Ultron, je sais plus comment ça s'appelle, mais celui en fait de chez Bryan Singer du
Days of Future Past,
ouais, X-Men Verse on va dire, quoi, je sais pas, mais parce qu'ils peuvent se le permettre. Et là tu te dis mais pourquoi, c'est-à-dire que en fait à part vraiment le fait de faire, parce que il y a aussi ce truc qu'on n'a peut-être pas forcément expliqué là, c'est que aujourd'hui maintenant les séries sont terminées donc vous pouvez les binger, mais c'est vrai que contrairement à Netflix ces dernières années, là ils ont un rapport à un épisode par semaine. Donc du coup il y a on revient à une vieille façon de présenter les séries télé.
Sur du feuilletonnant.
Voilà, merci. Et en fait,
avec un accroissement, un travail sur les réseaux sociaux entre chaque épisode,
voilà,
aussi, qui est très fort.
C'est exactement ce que j'allais pointer du doigt, c'est-à-dire que, en gros, à part le fait de faire revenir l'acteur de X-Men Days of Future Past dans le rôle de Quicksilver, quel est l'intérêt à part de faire buzzer sur les réseaux sociaux sur un éventuel une éventuelle récupération en fait de ce qui a déjà été mis en place en fait dans d'autres studios. Et quand je dis ça, je dis ça parce que ça se tient aussi sur Sony, c'est-à-dire que j'ai dit qu'il y avait trois films, mais il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que c'est censé sortir à Noël, le Spider-Man, donc il y a quatre films,
il est prévu pour le 17 décembre,
et dans ce Spider-Man là il y aura Alfred Molina qui jouait le Docteur Octopus dans les Spider-Man de Sam Raimi qui sont pas censés se dérouler dans le même univers, sauf que il y a un dessin animé Spider-Man enfin qui est sorti il y a 2-3 ans, je me rappelle plus le titre français.
Into the Spider-Verse.
Into the Spider-Verse a cartonné, a été très populaire, très apprécié, et qu'il démontre en fait qu'il y a la possibilité de croiser plusieurs univers avec plusieurs personnages de Spider-Man différents, etc., etc. Ils se sont dit ah bah hop, on récupère la choucroute nous aussi, on va le faire. Et là la
choucroute.
Ouais, c'est comme ça.
D'accord.
C'est de la choucroute pour moi.
D'accord.
Moi j'aime pas trop. Mais en gros, on dit, bah voilà, en fait, d'un seul coup, les gens ont commencé à délire en se disant, mais ça pourrait être un Spider-Man où d'un seul coup, le Spider-Man de Tom Holland croise le Spider-Man de Tobey Maguire qui croise le j'ai même pas envie de l'appeler Spider-Man, celui-là. Mais
si il y a Supadaiman, le Spider-Man japonais de Tokusatsu des années 70, moi, ça me va.
Ils en feront une référence, hein, sûrement, un jour ou l'autre, quoi. Parce que, justement, si tu vas sur
Il sera dans le prochain dessin animé.
Julien, si tu vas sur les réseaux sociaux et que tu montes une campagne, tu l'auras, ton Spider-Man japonais dans le truc. Il n'y a pas de problème. C'est ça le fonctionnement, en fait. C'est ça le problème. C'est que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a fait un fan art avec avec les trois Spider-Man dans le même truc. Et d'un seul coup, Marvel se dit, pourquoi pas, puisque ça a l'air de buzzer sur les réseaux sociaux.
Non.
Et du coup, moi, il y a un moment donné où, quand on est dans la logique, je termine, Julien, quand on est dans cette logique de rien laisser mourir, enfin, à un moment donné, ça devient lourd parce que moi, au moins, les Spider-Man que j'aime, ceux de Sam Raimi, ils étaient dans un coin, personne n'y touchait, tout le monde était en train de dire, ouais, de toute façon, c'est ringard, c'est nul et tout ça, etc. Puis non, en fait, ils sont en train de les récupérer. C'est exactement le problème que j'avais quand j'ai vu que J.K. Simmons jouait le personnage de merde, j'ai un trou là, de J.J. Jameson, dans, à la fin de Far From Home. Je me suis dit, mais non, putain, mais créez votre propre perso, faites quelque chose. Non, en fait, ils récupèrent Doc Ock.
C'est ça.
Apparemment, ils vont, le Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ça va être ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, il va y avoir... Et il n'y a pas qu'eux qui font ça. Hein. C'est-à-dire que dans le prochain Flash, en fait, chez DC, il y a Michael Keaton qui revient en Batman, il y a Ben Affleck qui revient en Batman, blablabla. C'est, à un moment donné, en fait, c'est laisser crever ces choses-là. Laissez-les dans un coin, ça appartient au passé. C'est très bien là où c'était. Enfin, n'essayez pas de nous chouchouter, en fait, en permanence, de nous caresser dans le sens du poil avec ce genre de truc. Donc, On les a pas vus ces films-là, ça se trouve ça sera brillantissime quoi, mais comme la belle promesse de WandaVision qui n'est pas tenue. Moi à mon avis c'est ce qui va se passer.
Non mais ce que il faut qu'ils voient des films de zombies. Parce que dans les films de zombies, t'apprends que si tu ressuscites les morts, ça se passe pas bien au final, quoi. Mais je pense qu'il y a un truc je pense qu'il y a un truc aussi pareil là, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, parce que juste pour terminer là sur le côté sur Quicksilver là, c'est que aussi il y a une malhonnêteté, c'est-à-dire que c'était un des rares trucs où les films Marvel chez Fox ou chez Sony avaient réussi à damner le pion auprès des fans vis-à-vis d'un des personnages, c'est-à-dire que tout le monde préférait le Quicksilver des Bryan Singer à celui qui avait été présenté dans l'ère d'Ultron. Merci Clémence. Et du coup en fait il y a une espèce de malhonnêteté. Enfin je veux dire il y a pas de règle du jeu quoi. Tu vois, il récupère là, tu te dis mais c'est un peu facile quoi. Mais c'est surtout que
Surtout que tout le monde en a pour son argent.
Comme j'aime bien faire une métaphore, pour faire une plante, il faut qu'elle pousse sur un truc mort en fait, une belle plante quoi. Tu vois, il faut qu'elle puisse Sinon, si tu reprends tout le temps les mêmes poussées et tout, ça les dévitalise en fait. Ça fait un truc. Ça dégénère le truc en fait. Il y a quelque chose de. Alors, je vais sortir un grand mot, mais il y a un truc presque incestueux en fait là-dedans. C'est-à-dire que
on est dans du consanguin.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas sain en fait. Il faut vraiment aller chercher une impulsion créative ailleurs, aller chercher quelque chose de neuf en fait pour revitaliser, rapporter du sang neuf. Parce que sinon, effectivement, comme dans les familles consanguines, tu te retrouves avec un appauvrissement en fait de ce qui fait la sève originale en fait de tous ces trucs-là. Et c'est vrai que tu te dis, mais au bout d'un moment. Là, ça tient encore parce que effectivement, il y a les Batman de Burton et les machins et tout qui n'ont pas été encore exploités là-dedans. Mais qu'est-ce qu'ils construisent en fait ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, est-ce que ces films en fait qui récupèrent des trucs du passé et tout, est-ce que toi, tu vas pouvoir les récupérer à nouveau pour redéconstruire quelque chose ? Ça va pas fonctionner, ils construisent rien, c'est ça.
Et en plus, le truc, c'est que t'en arrives avec des problématiques en fait de casting, c'est-à-dire que t'as Captain America qui joue dans Captain America et qui jouait donc dans les 4 Fantastiques. Et comment tu vas faire pour récupérer les 4 Fantastiques de la Fox de l'époque pour reprendre Johnny Storm? Enfin, tu vois, c'est des trucs où tu te dis, mais en fait, je pense qu'ils pensent même pas plus loin que ça, en fait. C'est-à-dire, ils voient ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux, ils se disent, on le case et on essaye de le faire, et puis on verra comment ça rentrera dans le grand plan.
Alors, ce 109, est-ce qu'il va venir des prochaines séries? Parce que finalement, là, on a parlé des prochains films Marvel, mais les prochaines séries qui sont programmées, il y en a tout un paquet, il y en a 13 au total si on compte WandaVision et Falcon et Winter Soldier. Les prochaines, alors là on sait que les fans ont été entendus puisque c'est Loki qui va sortir à partir du mois de juin.
Loki il est censé être mort, non?
Et Loki il est censé être mort. Alors ça, la série va décrire les aventures de Loki à la suite d'Avengers Endgame alors qu'il tente de modifier le cours de l'histoire. Donc on fait une espèce de pas de côté pour justement se concentrer sur ce personnage qui est très aimé et très apprécié par les fans. Moi-même, je l'aime beaucoup. Il y aura aussi What If qui devrait sortir cette année avec 10 épisodes, une deuxième saison de 10 épisodes qui a été annoncée
également.
Moi,
je l'attends plus parce que c'est un truc qui est complètement décorrélé en fait du canon.
On sera peut-être dans de la nouveauté.
Peut-être qu'il y aura quelque chose. Et puis c'est de l'anime et tout, donc je suis curieux en fait de le voir en tout cas celui-là. Et puis moi j'aimais bien les What If en fait les comics, c'était super en fait. C'était vraiment une invitation à rêver, à fantasmer. C'était un truc de gosse en fait. C'était de se dire tiens tel personnage il est avec tel autre ou si ça devient une femme et tout. Et donc j'attends parce que c'est pour le coup c'est un passeport pour le délire et le rêve What If. Sans aucune obligation derrière. Donc je me dis peut-être, éventuellement, parce que comme Marvel, c'est quand même, avec leur puissance, c'est devenu vraiment un talent, peut-être que là, il y a quelque chose qui va se passer. Sait-on jamais.
Quel optimisme.
Mais oui, mais c'est comme ça, il faut être comme ça dans la vie, Stéphane, écoute.
Certes.
Et puis, devrait sortir en 2021 aussi Miss Marvel, dernière série de l'année. On verra ce que ça donne.
Effectivement, voilà.
On verra.
On verra ce que ça donne. Si vous avez apprécié cet épisode, si vous vous intéressez au MCU, au Marvel Cinematic Universe, que vous avez envie de creuser et d'entendre des fans en parler, nous on a été assez critiques, mais les fans ont énormément de choses à dire sur le sujet, je vous invite à écouter un podcast dédié entièrement à cet univers qui s'appelle Les Clairvoyants, c'est diffusé sur le site geekzone.fr.
Et moi, je vais vous conseiller, si vous aimez les vrais trucs de super-héros, vous regardez Cosmic Kid, qui est la nouvelle série du réalisateur des Super Nanas, des Powerpuff Girls, sur Netflix. Ça, vous allez voir ce que c'est un vrai truc de super-héros qui s'interroge sur qu'est-ce que c'est être un super-héros, qui le fait honnêtement bien et avec beaucoup d'idées dynamiques, d'actions incroyables. Voilà, regardez Cosmic Kid.
Stéphane, tu vas ajouter...
Non, j'allais rajouter, il y a dit Powerpuff. Powerpuff Girl, Powerpuff.
Ouais, Powerpuff. Oh,
quand même.
Donc... Tu peux redonner le nom de...
Cosmic Kid.
Cosmic Kid et l'éclairvoyant sur geekzone.fr. Julien, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour ce deuxième et dernier épisode de notre collection consacrée aux nouvelles séries Marvel.
Merci Clémence, même si t'aimes bien Loki. Bon, c'est un peu... j'en apprends tous les jours avec toi, mais d'accord. Merci, en tout cas.
Merci Clémence, merci Stéphane. Même si t'aimes pas la choucroute, tu seras déçu.
Oui, j'aime Loki, je suis pleine de surprises. Oui. Wheel of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur wheelofcinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une toute nouvelle collection. Changement d'ambiance, exit les super-héros, on parlera de drogue, de caïd et de cours de chimie. Vous avez deviné ? Ouais, c'est bien ça. La prochaine collection Wheel of Series sera consacrée à Breaking Bad. Ça arrive très vite. D'ici là, portez-vous bien et à mardi prochain.